What I know.
Ready.
This time around, the revolution will not be televised. Step.
Radio Campus 88.3 FM. Dernier sur l'audience, mais premier sur le style.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Vous allez faire la blague?
Non. Non.
Non, on va pas la refaire.
On va pas la refaire et on va pas refaire parce que tu es là.
Je suis là.
De nouveau.
Ouais, de retour.
Vous êtes dans Écoute ta fac, nous sommes le mardi 26 mars. Hello Fatine.
Hello, ça va?
J'entends ta voix dans le casque. Nos auditeurs
non,
entendent
arrête.
De nouveau ta voix.
Oh.
On est trop contents.
Merci, trop contents. Merci.
Aujourd'hui, dans Écoute ta fac, on aura l'agenda du bouillon, comme d'habitude, dans quelques instants. On aura l'interview de l'artiste Baroudeur, faite par toi, Fatine.
Yes.
Et puis, on aura Marie-France Cano de Philomania qui revient nous parler des prochaines conférences, notamment celle de ce soir sur le sport. Ça va être très, très cool.
Mm-hmm. Comme toujours.
Comme toujours, et ben on passe directement à l'agenda.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là?
Et Lorraine, pour notre dernière semaine, salut. Dernière semaine de la programmation du bouillon déjà.
Et oui, dernière semaine avant d'attaquer le festival Le Grand Bain, où on aura deux mois bien intenses aussi en programmation étudiante. Mais effectivement, là, dernière semaine de programmation professionnelle ou en tout cas, du coup, par les composantes, etc. Et puis, plein de choses différentes. On commence ce soir avec une conférence scientifique. Conférence scientifique qui a été annoncée comme, en gros, une première mondiale, en gros, avec vraiment des pointures sur une thématique de biodiversité et de protection des écosystèmes. Donc ça s'appelle « État de la biodiversité et interdépendance entre l'humanité et les écosystèmes ».
Exactement, on avait reçu la semaine dernière Robin Trassard, le président du GECOUD, pour ce gros événement qui va être sur une grosse soirée quand même.
Ah bah oui, ça commence à 18h30, il y a 4 heures de conférence, il y a du coup 2 heures de présentation en fait avec 3 spécialistes, donc j'ai les noms. Catherine Sabineau qui est ethno-écologue et anthropologue des sociétés côtières et insulaires. Jean-Marc Fromentin, écologue spécialiste des populations et communautés marines et président et auteur du rapport d'évaluation de l'IPBES. Et Colline Léandre, ingénieur agronome spécialisée en politique publique, acteur des territoires et gestion des ressources naturelles, chargée de mission comité français pour l'IPBES. Donc ça c'est 2 heures, donc déjà là on va avoir un petit portrait bien dense et bien intéressant justement sur l'état de la biodiversité et puis un petit peu plein de conseils et d'états d'alerte aussi sur la protection de l'environnement. Et ça sera suivi ensuite de 2 tables rondes sur aussi ces questions-là. Et il y aura en gros une dizaine d'intervenants aussi qui sont des pointures mondiales dans le domaine. Donc c'est gratuit pour tout le monde. Il reste quelques places, il n'en reste pas des masses, puisque du coup, ça a été beaucoup relayé, des gens qui viennent de partout, et notamment même de l'étranger, du coup. Mais ça va être super intéressant, et ça sera clôturé par un petit pot de convivialité à 22h30. Donc, faut pas hésiter à venir, du coup, et à s'inscrire sur lebouillon.fr.
La suite,
c'est donc demain. Alors, demain, on change de registre avec une projection cinéma. Ça sera donc La Reine Margot de Patrice Chéreau. Donc voilà, là on est sur un film un peu plus historique, etc. Alors on revisite un petit peu l'histoire, mais un film qui est hyper intéressant aussi, et ça sera à 18h, et c'est encore une fois gratuit pour tout le monde.
Et on reste dans les projections, mais avec un débat.
Alors voilà, du coup, donc ça jeudi, là ça sera un petit peu différent, c'est la journée, ça commence à 13h30. En fait c'est une du coup journée conférence-débat qui s'appelle du coup L'amour 3.0.
Okay.
Et le titre, c'est « Y a-t-il un logiciel de compatibilité amoureuse ?» Donc, il y aura la projection du film « Her » de Spike Jonze,
ouais.
Où effectivement, qui met un peu en parallèle l'idée de tomber amoureux et même potentiellement d'une intelligence artificielle, comment se créer un peu son idéal amoureux. Et après, il y aura tout un échange justement autour de cette question et autour du débat avec justement Internet qui nous donne en fait, qui crée des nouvelles relations amoureuses, puisqu'on peut maintenant être amoureux de quelqu'un et avoir une relation sans jamais quasiment voir la personne ou se créer une sorte de d'alter ego parfait, on va dire, amoureux. Ouais. Donc voilà, toutes ces questions-là, donc c'est une journée organisée par le SSU. Et ça sera donc jeudi, c'est encore une fois gratuit pour tout le monde, et ça sera entre 13h30 et en gros 18h30 au Bouillon.
Et bah merci beaucoup.
Et bah merci à
d'être
toi.
D'être passé, on se voit, je pense, toujours très vite sur les antennes de Radio Campus.
On se voit très bientôt pour parler du Grand Bain.
Avec le Bouillon pour le Grand Bain.
Tout à fait,
nous,
et merci
suite,
beaucoup.
Tout de suite, on écoute un petit titre, c'est Full Goblin de Perk, et après c'est notre interview. génial.
C'est ton type.
Ah là, moi je suis en apothéose. Avec Viviane, on adore cet album maintenant, parce que l'album va sortir bientôt.
À un moment, je me suis dit, ça finirait jamais, ça.
J'espère que ça finira jamais. Non, c'est trop, l'album est ouf. C'était Perk, du coup, je vous conseille d'écouter ça. Il y a deux titres qui sont sortis de cet album, mais c'est juste ouf, ça me renverse la tête à chaque fois. C'est génial. Et ben maintenant, notre invité.
Yes.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et bah du coup, aujourd'hui, je suis avec Théo Le Vauffre. Ou bien Théo Auguste Roger Victor Le Vauffre.
Ah ouais, bah là ça balance carrément tous les prénoms de la carte nationale d'identité. Je vois qu'il y a des journalistes qui font leur travail. Dis baroudeur, c'est
ou
plus simple.
Tout simplement baroudeur, oui. Bonjour. Ça va?
Ben oui, ça va très bien. Et
très bien, très bien. Alors, tu es chanteur.
Oui, entre autres.
Écrivain.
Ouais.
Poète.
Ouais.
Photographe aussi.
Oh là là.
Ah, un peu de tout.
Je crois que je suis pas le seul à avoir Internet.
Ben non. J'espère que j'ai pas oublié un autre truc.
Non, je crois pas. Au pire, c'est pas très grave.
Du coup, tu viens de sortir un EP le 1er mars 2024, intitulé Du quatrième étage.
Exactement.
Est-ce que tu peux me dire un peu quelle était l'inspiration derrière ce titre du quatrième étage? Parce que je sens un peu de symbolisme là-dedans.
C'est mon amie Élise qui m'a proposé ce titre-là, parce que j'étais... autant j'avais peu de difficultés à trouver les titres des morceaux qui à chaque fois s'imposaient un petit peu de par l'écriture des chansons. Et par contre, pour l'EP, j'étais bien embarrassé, parce que il y avait vraiment la difficulté de réussir à donner un titre qui rassemble 5 morceaux qui ne se ressemblent pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Et donc je me grattais bien la tête et je savais pas trop. Et puis elle m'a dit, mais... tes morceaux, tu les as fait du quatrième étage, tu pourrais l'appeler. C'est ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous été faits là.
Ouais.
Au quatrième étage de la petite résidence du HLM dans lequel j'habite et dans lequel j'ai mon petit studio. Et voilà. Et puis j'aimais bien que ça fasse baroudeur du quatrième étage.
Ouais. Voilà. C'est bien.
D'où.
D'où le nom.
son idée très. Ça me. Voilà. Merci Élise.
Merci à elle. Parle-nous un peu du procès de la création de cet EP, l'idée, l'écriture, tout.
Eh ben, il n'a pas été écrit comme un EP, en mode où je me suis dit je vais faire un EP.
Un EP.
Et puis, je pense que sinon les morceaux se ressembleraient un peu plus. Ces dernières années, j'ai accumulé plein de chansons, toutes très différentes. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de les montrer, de les sortir, de monter sur scène aussi. Et donc, fallait bien commencer quelque part. Et j'ai choisi 5 morceaux qui me semblaient être suffisamment différents pour donner une sorte de palette de ce que je suis susceptible de faire les prochains temps. Et en même temps, je me suis composé un échantillon de parmi les chansons que j'avais à montrer, et ça a fait ces 5 morceaux.
Ouais, parce que les chansons sont de différents thèmes, mais aussi de style musical un peu.
Ouais, complètement. Ouais.
Et du coup, ça t'a pris combien de temps, ce creative process?
Du coup, c'était très étalé. Il y a des chansons qui ont été écrites, je pense qu'il y a des chansons qui ont été écrites il y a 5 ans, tu vois.
Waouh.
Ouais.
Okay, ça fait longtemps.
Ouais, ça fait longtemps, mais bon, c'est... J'aurais pu aussi les sortir, les bénir sur Internet, comme je le fais pour ma poésie ou ce que j'écris. Là, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, je pense que même Michel Houellebecq, il ne vivrait pas de sa poésie. Donc, tu vois, l'avantage, c'est quand tu écris des poèmes, au moins, tu ne te trimbales pas le doute de est-ce que je fais ça pour la reconnaissance ou l'argent ou non. Globalement, si tu écris des poèmes, c'est que tu fais ça pour toi, sinon t'en fais pas. Tu vois.
C'est vrai. Oui.
Donc, pour faire de la musique, évidemment que je la fais aussi pour le plaisir. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même une joie de pouvoir faire des concerts, montrer ça. Et pour tout ça, il faut construire un projet. Donc, ces morceaux-là, je les ai soigneusement mis de côté comme ça. Et puis voilà, et puis maintenant, je les montre et je suis pressé de. Ouais, je suis pressé de les jouer sur scène. Voilà.
Et bah, du coup, j'aimerais bien parler de ton premier single, qui est Lettre à un ami.
Ouais.
C'est mon préféré. Je t'ai déjà dit ça. Bah, je trouve que c'est simple, c'est réel, c'est authentique. Je m'identifie. Ça parle de la réalité ou d'une réalité que l'on identifie. Et c'est ce que j'aime bien. À propos de ce titre. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, dire d'où vient l'inspiration? Est-ce que c'est une expérience personnelle avec un ami?
Oui, c'est comme quand en cours ou dans une situation, tu poses une question pour un ami.
Ouais. Ouais.
Alors qu'en fait, en général, on te répond pour ton ami, mais on sait très bien que c'est pas forcément que ton ami. Il y a moyen que ce soit peut-être un peu toi.
Ouais.
Et puis en même temps, il y a cette ambiguïté je me suis rendu compte qu'on était vraiment nombreux à être à cette espèce d'endroit de se sentir attiré tantôt par quelque chose et puis ensuite par quelque chose qui a rien à voir j'ai vraiment l'impression d'avoir passé des années et de continuer. J'ai l'impression que ma vie artistique elle consiste à essayer de me rassembler artistiquement.
Ouais.
Et quand on s'éparpille, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de beaucoup de gens, c'est ce dont parle cette chanson, on a la sensation de ne pas avancer des fois parce que tu vas pas à la même vitesse quand tu fais 10 choses que quand t'en as une seule et que ça prend tout ton temps, toute ton énergie et voilà et des fois c'est ce que raconte ce refrain, c'est tu te sens capable de tout faire, c'est bien, oui. Mais tu sais pas quoi, alors tu fais rien,
c'est vrai.
Voilà.
Et y a une autre chanson que, alors je l'ai écoutée la première fois, j'ai aimé, pas comme Lettre à un ami,
ouais.
Mais du coup j'ai vu un peu l'histoire derrière cette chanson que je trouve magnifique, et c'est De Sans Toi.
Ah oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, bien sûr. Ouais. De Sans Toi, c'est une chanson qui est née d'une rencontre en voyage. J'étais, je crois, dans le sud de l'Allemagne en été. J'avais faux m'imaginer vraiment avec mon sac à dos à voyager en autostop, ouais. À pas savoir où je vais dormir, etc. Mmh. Donc c'est un espèce de flow où finalement les rencontres elles sont nécessaires et puis tu t'as au bout de quelques jours finalement ça devient assez naturel d'aller vers les gens et je me retrouve à avoir une conversation avec un homme qui vivait dans la rue.
Mmh.
Ce qui était la première fois pour moi. En fait, c'est assez rare, finalement, je crois, d'avoir, de pouvoir avoir une vraie conversation,
ouais.
Avec quelqu'un qui vit dans la rue. Parce que c'est vrai que le cadre, soit de la mendicité ou tout ça, c'est toujours un cadre qui est difficile pour créer un vrai lien. Et c'est dur de trouver les moments. Enfin bon, pour plein de raisons,
ouais.
On a peu de...
Peu de chance.
Peu de chance. Ouais. Ouais, mais en même temps, on pourrait, mais c'est difficile.
Oui,
quoi.
Oui.
Non, je pense qu'on... Et en fait, je me suis vraiment pris une énorme claque parce que quand cet homme m'a raconté son expérience, pour lui, au moment où on a eu cette conversation, ce qui était le plus dur à vivre, c'était pas le froid, c'était pas le regard des autres, c'était pas la difficulté de l'hygiène, c'était pas tout ce que moi, avec mon regard assez naïf, je projetais sur ce que pouvait être sa vie. Il a un peu balayé tout ça et
ouais.
Il m'a dit, mais moi, c'est pas ça le pire. Le pire en ce moment pour moi, c'est que il était amoureux d'une femme qui vivait, ouais. Dans la rue
aussi.
Et il me disait, mais en fait, j'aimerais juste avoir un endroit d'intimité, un endroit où on serait juste à deux. Et en fait, il était dans l'un. Et il me dit, je peux pas. Il avait pas cet endroit où faire évoluer la relation.
Ouais.
Et je me suis pris une énorme claque parce que je me suis dit, mais à la fois, tu sais, c'est comme ces espèces de trucs où des fois tu te les prends comme ça, où c'est évident, mais tu n'y avais jamais pensé.
C'est vrai, oui.
Et je m'en suis voulu même de me dire, mais oui, mais évidemment qu'un sans-abri peut tomber amoureux. Enfin, mais tu sais, genre, je sais pas, en fait, on les a cristallisés dans nos esprits comme une espèce de figure. C'est comme s'ils faisaient partie de la rue, c'est terrible.
C'est
terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on les a. Instinctivement, sans même y réfléchir, par manque de réflexion ou manque d'égard, on les a cristallisés comme s'ils faisaient partie du décor de la rue,
oui.
Et jusqu'à les déshumaniser au point de même pas avoir envisagé qu'ils pouvaient tomber amoureux.
C'est vrai, on s'est dit qu'il a d'autres trucs qui sont graves pour ne pas avoir de vie amoureuse ou je sais pas.
C'est ça, et en fait finalement l'amour, je pense qu'on on serait beaucoup à être d'accord quant au fait que c'est quand même un besoin, enfin c'est aussi vital, c'est, on a autant besoin d'amour que de besoin d'air et d'eau.
Exactement.
Et voilà, c'est vraiment un besoin primaire, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, ça m'a, enfin, j'ai été bouleversé par cette prise de conscience, cette rencontre, et j'en ai écrit une chanson dans laquelle je témoigne de cette prise de conscience, et je lui prête la parole, et je dis qu'on n'est jamais deux sans toi.
Ouais, voilà. C'est vrai. Et du coup, tu prends l'inspiration non pas de ta vie personnelle, mais aussi des vies des autres personnes ou plutôt tes rencontres, tes expériences avec les gens. Tu écris aussi des récits, de la poésie, comme dit au début de l'émission. Bah, je veux bien savoir comment tu fais pour trouver les bons mots ou les mots corrects qui décrivent ce que tu sens ou ce que tu veux dire exactement. Parce que moi aussi, je suis un peu passionnée par la musique, j'essaie d'écrire des fois, mais j'ai toujours ce problème de transformer mes pensées et mes sentiments en phrases, en expressions.
Ah, ta question, elle est ultra intéressante, mais c'est dur de te répondre, là, comme ça. Genre, comment je fais pour transcrire en mots? Ouais, bah, je sais pas.
Parce que je sais que l'inspiration, ça vient comme ça, genre, on contrôle pas ça. Mais des fois, on a des pensées, on a des sentiments, mais on peut pas les transformer en écriture.
Bah, moi, des fois, j'ai l'impression que y a plusieurs. Tu sais, je réfléchis en parlant, donc ça va peut-être être un peu saccadé, un peu confus, mais et je vais peut-être me contredire 3 minutes plus tard.
C'est pas grave.
Comment dire ? Moi, des fois, souvent, dans le processus d'écriture, notamment l'écriture de chansons et de poésie.
Ouais.
Des fois, je vis ça un peu comme un sudoku.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, bon, alors déjà, effectivement, il y a la phase d'inspiration. L'inspiration, globalement, pour moi, je le vois un peu comme un angle. C'est-à-dire, c'est pas tant ce dont tu veux parler. Le moment où t'as l'idée, c'est le moment où tu sais de quel endroit tu peux te placer pour parler de ce dont tu veux parler.
Mmh.
Et quel endroit va te fournir suffisamment de matière instinctive et instantanée pour dire des choses intéressantes et voilà, que l'offrir sous un angle et sous un éclairage qui lui donne une forme, qui lui donne un rythme, qui lui donne du... Mais après, cette forme et ce rythme, il faut réussir à la mettre en forme, ça, on en arrive à la phase que tu décris et à propos de laquelle tu me questionnes. Et ouais, ça, je le vois un peu comme un espèce de sudoku, c'est-à-dire, tu vois, t'as des lignes et des fois, t'as pas assez d'éléments pour aller au bout de ta ligne. Donc en fait, il faut que tu remplisses une autre ligne qui, elle, va en fait... C'est un peu un texte à trous, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est surtout vrai en musique ou en chanson. C'est-à-dire que... et dans la poésie. Surtout si tu t'appuies sur les rimes, ce que je fais des fois, mais pas systématiquement.
Okay.
Mais du coup, tu vas avoir une ligne qui est importante, que tu sais que tu veux dire exactement telle qu'elle.
Ouais.
Mais par exemple, des fois, tu vas sentir qu'il vaut mieux finir par cette phrase que commencer par là. Donc tu sais que tu la notes pour plus bas, et puis après tu te dis, ok, là j'ai 3 vers pour en arriver là.
Ouais.
Comment est-ce que je peux être intelligible en 3... Enfin, tu vois, genre, c'est comme un sudoku, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un puzzle musical.
C'est ça.
Oui, ok. Bah oui, du coup... Oui, ça, là, je comprends. Là, oui, je suis d'accord. Genre, on a des pensées, mais il faut aussi de la musique, du rythme pour diriger ce qu'on veut dire exactement.
Ouais.
Et comment tu fais pour désigner quelle création reste sous forme de poème et laquelle se transforme en chanson ou...
Ah ben, c'est vraiment, ça n'a...
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport.
Vraiment, okay. C'est ultra différent, l'écriture de chansons et de poèmes. Ça s'écrit pas du tout de la même manière, je sais pas.
Oui.
Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est vraiment dur de convertir un poème en chanson.
Oui,
ça a été fait, hein, mais c'est vrai, et très bien des fois. Mais c'est quand même un exercice qui est assez difficile.
Oui.
C'est vraiment. Et là, quand tu essaies de convertir l'un en l'autre, tu te rends bien compte de ce qu'est un poème et de ce qu'est une chanson.
Exactement,
et que c'est pas. Et que. Il n'y a pas beaucoup de chansons dont tu peux dire les paroles comme un poème et qu'on n'entende pas que c'est quand même une chanson. Et pas beaucoup de chansons que tu puisses pas beaucoup de poèmes que tu peux convertir en chansons sont qu'on entende qu'à la base c'est un poème.
C'est
ça s'entend toujours.
Mais du coup, quand tu commences à écrire, est-ce que tu te dis, là voilà, je vais écrire
un poème et tu écris un poème. Et pour la chanson, tu fais pareil ou ça vient juste naturellement?
Franchement, j'en sais rien. j'en sais rien. Non, si, souvent, c'est le truc, c'est que la plupart des chansons, je les écris avec la musique.
Oui.
Tu vois.
Ok.
C'est très rare que je me pose à écrire une chanson et qu'ensuite je me pose la question de la musique.
Mm-hmm.
Donc en fait, je pense que ça va être ça la différence. La réponse, ça serait plutôt ça. Là. C'est si je l'écris sur une musique, ça va donner une chanson.
Exactement.
Il y a quelques poèmes que j'écris sur des musiques, mais c'est rare.
Mm-hmm. Ouais. Mais du coup, quelle est ta relation avec la musique?
Putain, ah oui, tu te balances l'artillerie lourde en question. On a une émission de combien de temps là parce que...
on est là pour toute la journée.
Ma relation à la musique. Oh là, j'ai un joker sur celle-ci ou c'est quoi ma relation à la
comme
musique.
Comme tu veux.
Déjà ce que je peux, tu vois, parce que de la musique finalement l'écouter et la faire, c'est des choses différentes et Et même quand tu fais les deux, tu fais pas du tout les deux de la même manière. Mmh. Par exemple, moi, dans les choses que je me... quand j'écris une chanson, j'ai cette espèce de souci, c'est presque malgré moi, hein, mais j'ai cette espèce de souci de pertinence. Mais là, ça a l'air d'être... J'ai l'air de me jeter des fleurs, alors que c'est pas du tout le cas. C'est des fois, j'ai cette espèce de truc où je m'intéresse... Des fois, il y a des chansons que je pourrais faire qui pourraient être très simples et très belles et très douces et très jolies.
Mmh.
Sans qu'elle traite d'un sujet en particulier, qu'elle décompose de manière... Tu vois, c'est ça que j'entends, cette espèce de souci de pertinence. Et ça, je me l'interdis complètement, tu vois.
Okay.
Alors que ça pourrait faire des belles chansons. Oui. Et le pire, c'est que ces chansons-là, quand je les écoute, je les aime bien.
Oui, parce que c'est beau.
Oui, parce que c'est beau. Et puis des fois, juste dans une mélodie, un truc un peu entêtant.
Exact.
Et oui, si tu t'arrêtes sur les paroles, des fois, ça va peut-être pas dire grand-chose,
mais
c'est cool et je kiffe ça, tu vois. Mais par contre, si je suis en train d'écrire, je ne m'autoriserai pas ça, quoi.
Ouais.
Et bon, voilà, c'est comme ça. Mais tu vois, c'est vraiment cette différence entre ce que tu aimes et ce que tu fais.
Oui.
Mais de toute façon, plein d'artistes connaissent ça, hein, je pense.
Oui, c'est vrai. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire ton titre préféré? Ou celui qui te parle le plus
de
l'EP, oui. Et pourquoi?
Celui qui parle le plus de moi, c'est l'être un ami, clairement.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que comme tu as listé tout ce que je faisais, je suis effectivement quelqu'un d'assez éparpillé. Celui que j'aime le plus, moi, je leur trouve tous des choses différentes.
Mm-hmm.
On va répondre l'être un ami parce que
c'est personnel, c'est...
Ouais, c'est personnel et puis ça parle de plein de gens autour de moi. Et puis j'ai l'impression que ça touche à quelque chose de simple et de compliqué à résoudre de manière parfaite. Tu vois, c'est un truc que tu peux vraiment te trimballer toute ta vie, quoi. J'ai pas l'espoir de trouver une solution à ça et la chanson prétend pas en trouver une, mais...
Ouais, c'est la vie.
C'est ça,
Faut la vivre et c'est tout. du coup, est-ce que tu peux nous décrire ta musique, encore une fois, en un seul mot, ou ton art, en gros, genre, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Qu'est-ce que ça représente, en un seul mot?
Oui, je sais pas, une phrase.
Okay. Globalement, ce que j'essaye de faire de la musique qui a du sens.
Voilà. Ouais.
Je pense que c'est ce que j'essaye de chercher quand je fais de la musique, c'est du sens. Et j'essaye de lui donner de la structurer pour qu'elle prenne ce sens, pour qu'elle ait du sens pour moi, pour qu'elle fasse sens pour les autres. Et c'est un peu... Voilà.
Je veux te dire que tu le fais parfaitement.
Ah bah, ça...
c'est très bien fait. Et du coup, pour une dernière question, est-ce qu'il y a un événement, des projets à venir? Un concert, peut-être
Moi, ma grosse erreur, ça a été d'attendre de sortir les morceaux pour chercher des concerts.
Ok.
Du coup, les morceaux viennent de sortir.
Ouais.
Et là, on me dit, bon, alors, maintenant, les concerts. Sauf que maintenant, je commence à chercher des concerts. Donc, les concerts, ils vont arriver, je pense. Je pense qu'il y en aura avant l'été. Je vous préviendrai. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Tout n'est qu'en discussion.
Un nouvel album, peut-être
Je vais sortir. Je pense que là, maintenant, je vais sortir les morceaux un par un. Je me donne pour objectif de sortir au moins un ou deux morceaux avant l'été. Là. Donc, il y aura d'autres choses bientôt.
Et du coup, je te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Et là, on écoute Lettre à un ami.
On va écouter du coup Lettre à un ami, et je rappelle que l'EP du coup du quatrième étage est disponible sur toutes les plateformes, partout. Ouais. Et bah c'est Lettre à un ami de Baroudeur.
Passer le temps avec tes petits boulots, juste assez pour le loyer, la weed et l'apéro, bercé par l'ennui et partisan du moindre effort. T'as toujours envié les passionnés et les idiots d'avoir un jour découvert le métier qu'il leur faut, une raison d'arrêter le bédo, toi pas encore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rend heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. Que t'avais à l'intérieur de toi une vocation pour un truc qui deviendrait ta voix, mais tu ne t'es jamais lancé dans la chasse au trésor. Qu'il est dur de faire des choix. Le futur ne t'attendra pas. Prends la vague et navigue jusqu'à l'aurore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rend heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. Fait-on-nous qui n'avons pas trouvé de chemin, pour qui hier et aujourd'hui riment avec demain, pour donner du concret à ceux qui animent nos corps. Comment revenir au temps de nos rêves de gamins, l'époque où tout semblait désobéir entre nos mains, et pendant que l'on pense à ça, on ne fait rien. Alors, on se sent capable de tout faire, c'est bien, mais on ne sait pas quoi, alors on ne fait rien. On aimerait avoir un truc, un machin qui nous rend heureux et auquel on tient. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de se lever le matin qui nous permette un peu de croire au destin.
Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
Et tout de suite, on va parler philo, parce qu'on retrouve en studio de nouveau la présidente de Philomania, Marie-France Cano. Tout de suite, c'est notre invitée.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Bonjour Marie-France, comment allez-vous ?
Bonjour Lucas, mais je vais très bien, ravie de vous retrouver.
Ravie de vous revoir de nouveau dans les studios de Radio Campus Orléans et dans l'émission Écoute ta fac ce midi. Donc on va reparler d'une conférence, mais cette fois sur le sport.
Tout à fait.
Nommée conférence le sport idéal ou imposture par Michel Kaya. Déjà, comment a été trouvé ce thème du sport ?
Alors, on s'est rendu compte...
En cette année olympique.
Vous savez qu'en dehors des conférences, Philomania organise des cafés philo et que le public propose des sujets. Et le thème du sport, des valeurs réellement véhiculées par les sports, revenait de façon récurrente dans les propositions de sujets. Alors, on s'est dit qu'il fallait, en cette année de Jeux olympiques, peut-être faire quelque chose. Voilà.
Comment a été, parce que c'est présenté par Michel Kaya, enfin c'est une conférence tenue par Michel Kaya, comment vous l'avez trouvé et qui
alors,
est-il ?
C'est vraiment, je pense, une référence pour ce qui concerne la sociologie du sport, mais en plus il a longtemps vécu à Orléans. Il était professeur d'économie, il a été journaliste, c'est un confrère à vous, il est sociologue et il a écrit de très nombreux bouquins consacré au sport. Donc ça nous paraissait effectivement le choix. Alors il n'est plus à Orléans aujourd'hui, mais il a gentiment accepté de revenir dans la ville qu'il a habité longtemps pour cette conférence.
Le sport idéal ou imposture, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème d'idéal
alors,
ou d'imposture?
Quand on parle du sport, très souvent, il y a des mots qui reviennent, je dirais, sans qu'on y pense. Loyauté, fraternité, des choses comme ça. Et quand on gratte un peu, on se demande si c'est vraiment ça. Alors, Michel Kaya fait remarquer que le sport contemporain s'est développé en même temps que le capitalisme industriel. Et que du coup, il y a des similitudes dans les objectifs des deux qui sont troublantes. Alors, peut-être pour éviter toute confusion, dire que quand on parle sport, on parle forcément sport de compétition. Le petit footing tranquille autour du lac, tout proche, ou quand vous allez à la piscine pour vous détendre, ça, c'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Sport, ça implique la compétition, quel que soit le niveau de la compétition, que ce soit au niveau départemental ou au niveau international. Et en fait, le sport, ça promeut la compétition, j'ai envie de dire la concurrence, ça promeut la gloire au plus fort et le mépris des plus faibles, ça promeut la compétition un petit peu à tout prix, alors même si on nous dit quand il y a des dérapages que c'est des dérives, que c'est pas ça le sport, mais on en voit quand même beaucoup. Donc vous voyez, il y a vraiment des similitudes. Ce qui est évident en tout cas, c'est que le sport ne promet absolument pas les logiques d'entraide et de coopération.
Sauf peut-être dans certains exemples assez humains où on peut voir, je pense à une course et l'adversaire aide à se relever une de ses concurrentes, etc. J'ai cette image en tête. Et est-ce que dans ces images assez humaines, la philosophie vient se placer dans le sport ?
Alors moi, je pense que les exemples que vous citez, c'est malheureusement les exceptions qui confirment la règle. La règle, c'est de voir plutôt, il faut gagner à tout prix. Ce qui est frappant aussi, alors vous avez raison de parler philosophie, pourquoi est-ce que c'est Philomania qui organise une conférence sur le sport ? Pierre de Coubertin disait « le sport, c'est une philosophie de la vie ». Reste à savoir quelle philosophie. Et c'est clairement une philosophie de la compétition, de la concurrence, et pas une philosophie de l'entraide. Hein. C'est pas ça qui est mis en avant en premier. Il faut gagner à tout prix. Ce qui est d'ailleurs très impressionnant, c'est la façon dont les gens considèrent les enjeux. C'est-à-dire que quand il y a un match, on a l'impression que leur vie dépend du résultat du match. Et Michel Kaya cite volontiers un mot d'enfant qui dit « Ah, c'était sympa le sport, mais quand est-ce qu'on va jouer ?» effectivement, il n'y a plus rien de ludique, c'est dramatisé. Moi, je me souviens, il y a des années, vraiment des années, au moment de la guerre en Yougoslavie, avoir entendu dans une chaîne de radio en continu le reporter parler sur le même ton de la découverte d'un camp de concentration en Yougoslavie et de la défaite en Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était horrible le fait de mettre les deux événements au même niveau. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, avec les JO, on risque d'assister de nouveau à ce genre de choses.
La philosophie, c'est quand même, enfin, pour moi, ça reste universel. On peut la trouver partout, on peut la trouver dans tous les sujets.
Tout à fait.
Le sport est un peu moins, peut-être un peu moins universel pour ceux qui ne seraient pas sportifs, je ne parle pas du tout de moi, qui ne seraient pas, où on ne pourrait pas trouver le sport partout, dans chaque personne, autant qu'on pourrait trouver la philosophie. Comment on lit le sport, qui est un sujet peut-être un peu moins parlant pour tout le monde, et la philosophie, qui peut être vue partout dans le monde, dans tous les sujets?
Mais je pense qu'il y a une philosophie dans le sport, mais on n'en parle pas. Je pense que le sport, c'est quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas. Alors, soit on est fan, et là, on est complètement hypnotisé par le calendrier des compétitions, les résultats, etc. Soit on s'y intéresse pas, et au mieux, on est agacé parce qu'on en parle trop, parce que ça sature l'espace médiatique, mais on ne fait pas l'effort de réfléchir. On ne pense pas.
Il n'y aurait pas d'entre-deux dans le sport. C'est soit on n'aime pas, soit...
Bah souvent, c'est un petit peu comme ça, oui.
Alors que la philosophie, c'est déjà plus réfléchi quand même, mais c'est la philosophie est assez partout, quoi.
Alors je pense que tout le monde fait de la philosophie sans le savoir.
Voilà, c'est ça.
Mais sans le savoir, c'est-à-dire, je pense qu'un certain nombre de personnes ne sont pas conscientes que chaque fois qu'elles exercent leur pensée, qu'elles réfléchissent, en fait, elles sont en train de philosopher. Donc, je pense qu'on est très nombreux à faire de la philosophie sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
Et dans ce rapport au sport et à la philosophie, comment on peut lier soit l'un dans l'autre, ou est-ce que le rapport est très différent de la philosophie et du sport ?
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une urgence à penser le sport. Il y a une urgence à réfléchir aux valeurs qui sont vraiment promulguées par le sport.
Et potentiellement les changer, j'imagine, si vous dites ça.
Alors, ça, je ne vais pas parler à la place de Michel Kaya, donc je ne sais pas ce qu'il va nous dire sur le sujet, mais je pense que s'il y a déjà une prise de conscience de l'idéologie qui est véhiculée par le sport, ce sera un grand pas. C'est vraiment une idéologie qui favorise une certaine violence. Moi, je suis effrayée quand je vois des supporters d'un match qui arrivent avec des peintures de guerre sur le visage. C'est quand même... ça crée des tensions, une agressivité, dans certains cas de la haine. On a vu des incidents.
C'est exactement ce que j'allais dire. On en entend beaucoup, beaucoup parler encore aujourd'hui du racisme dans le sport, de l'homophobie, de la misogynie même. Comment la philosophie pourrait aider peut-être tout ça à s'améliorer, à enlever toute cette énergie négative dans le sport?
Ben peut-être, mais alors là je parle encore une fois en mon nom, hein, pas au nom de Michel Kaya, je ne peux pas préjuger de ce qu'il va dire, mais je pense que si on prend conscience, encore une fois, de la réalité de ce qu'est le sport, cette prise de conscience peut permettre ensuite de se dire, halte là, il y a des valeurs qui sont hyper importantes, le respect de l'autre, c'est plus important que de savoir qui va gagner, remettre une hiérarchie des valeurs.
Eh ben, on pourra avoir ce point de Michel Kaya ce soir. Vous pourrez avoir ce point ce soir pour cette conférence, toujours à la MDL, du coup à la Maison des lycéens du lycée Jean Zay, à 19h. 4 € le prix d'entrée, 2 € pour les chercheurs d'emploi et personnes atteintes d'un handicap, et gratuit pour les lycéens, étudiants et apprentis. Et vous reviendrez peut-être à l'antenne pour le 14 mai, pour l'autre conférence. conférence pour la, sur la famille, faire famille, une philosophie des liens par Sophie Galabru, où on vous recevra avec plaisir à Radio Campus. Pas moi, du coup, comme on disait avant l'antenne, moi je serai sûr.
On vous regrettera, Lucas, on vous regrettera.
Je ne sais pas si les auditeurs me regretteront, mais...
Moi je vous regretterai, voilà.
C'est déjà beaucoup.
Alors la famille, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le sport, on la vit, on la subit parfois, mais on ne la pense pas. Alors que c'est un lieu où s'entrecroisent quand même des choses qui pourraient être antagonistes, comme la protection et la liberté, comme l'identité et la différence. Donc la transmission qui intervient aussi. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir. D'ailleurs, Sophie Galabru a intitulé sa conférence « Faire famille » et sous-titre « Une philosophie du lien ».
Du lien, et oui. Et bah, ce sera avec plaisir qu'on recevra Philomania et vous-même. Ce sera avec plaisir pour parler de cette nouvelle conférence. Merci beaucoup d'être passé à l'antenne de Radio Campus et dans Écoute ta fac. Bonne journée.
Merci Lucas.
Nous tout de suite, nous écoutons La mère de Nemo.
Quand il y aura plus que l'amour, sûrement qu'on entendra que la mer.
ça te donne envie d'aller à la mer. Hein. Que, non, mais sans rire, ouais. Moi, ça fait peut-être un mois que j'ai envie d'aller à la mer. Ça me manque.
Oui, bah, je comprends. Hein.
Ouais, ça me manque. Et bah, qui c'est qu'on accueille ? On accueille Hélène.
Bonjour à toutes et tous.
Comment tu vas ?
Comme une vieille.
Oh.
Alors.
Oh là là,
pas du tout.
Même Fatine nous rejoint pour dire « Oh, mais non !»
Mais non.
Bon, on nous reste 4 minutes. Allez, tu nous balances quelques petites infos insolites, c'est ça ?
C'est ça, en avant les histoires, comme dirait l'autre. nous allons aller vers l'Est et plus précisément à Taïwan. Parfois, les bons conseils des copains ne sont pas à suivre. Car que peut-on faire pour effacer une dette de 800 000 $ ? Eh bien, faire une escroquerie à l'assurance. Déjà vu, me direz-vous. Oui, mais là, un étudiant a poussé le bouchon très, très, très loin. Très, très loin. Pour obtenir 1,3 million de dollars de son assurance, l'étudiant n'a pas hésité à plonger ses pieds dans un seau de neige carbonique pendant plus de 10 heures. Au terme de ce trempage, j'ai dit les pieds, hein. Le jeune homme avait les membres inférieurs si gelés qu'une double amputation sous le mollet était nécessaire.
J'ai vu cette info, je me suis dit, là, ça va loin.
Ça va loin. Ouais, c'est précisément, il cherchait ça.
Oui, bah ouais. C'est une info qui est sortie il n'y a, y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps. Là, on est sur du tout frais, du coup.
Ah ouais, ouais. À peine, il y a encore les cicatrices. Mais du coup, il y a eu une enquête, hein, évidemment, 1,3 million, l'autre. Il a indiqué qu'il s'était fait des angeleurs après avoir roulé trop longtemps la nuit à moto. Ouais, bien sûr, surtout en Thaïlande. Ça, les ours polaires sont pas loin. Évidemment, il a été arrêté pour suspicion de fraude. Alors donc, il va aller en taule, il n'a pas le pognon, il n'a plus de jambes.
Il a tout perdu.
Il a tout perdu. Enfin, presque tout. Revenons plus près, en fait, en France. On va revenir à Caen.
À quand les vacances ?
À quand les vacances. Donc justement, nous parlions de la mer. Où des clients, alors à Caen, où des clients installés à la terrasse d'un bar ont été pris de panique mardi soir en voyant des flammes dans un appartement. Donc ils donnent l'alerte, deux camions de pompiers se rendent précipitamment sur les lieux. Alors l'histoire ne dit pas ce que ces clients avaient consommé de base au bar. Parce qu'une fois sur place, les pompiers ont découvert, avec soulagement bien évidemment, que l'incendie n'en était pas un. Les flammes observées étaient en fait fictives, car il s'agissait d'images d'un feu de cheminée virtuelle diffusé sur un écran de télévision.
Ah, on peut comprendre la peur quand même.
Oui.
On peut comprendre le...
Mais venant de deux clients d'un bar, on se demande ce qu'ils avaient bu quand même. Hein.
Oui, puis ça dépend de l'heure quoi.
C'est ça.
S'il est déjà 1h, 2h, bon...
Voilà. Bon, donc apparemment ils ne se sont pas fait attraper, hein. Après tout vaut mieux prévenir que guérir comme on dit, mais quand même. Donc ça veut dire que ce qui passe en feu, enfin je veux dire sur des écrans, c'est très réaliste.
Ouais, non bah ça dépend dans quel endroit tu le mets. Si c'est dans ta télé, tu vois que c'est dans ta télé.
Oui, mais des gens qui sont à l'extérieur, qui arrivent à voir à travers des fenêtres d'appartement, sur un écran, le feu.
En ayant bu.
En ayant bu.
Là, c'est le point que tu oublies,
oui,
Hélène.
Je oublie.
Tu oublies ce point de client ayant potentiellement, sûrement,
oui.
consommé. Et si c'est que de l'alcool, tant mieux. Hein.
Oui, oh, bah, les deux, mon général. Oui. Et je termine.
T'as 30 secondes.
Oh non, je vais la garder pour une prochaine fois.
Est-ce que tu reviens demain ?
Demain non, mais mardi, tous les mardis, ouais, c'est faisable.
Et bah c'est faisable.
Bah mardi prochain.
Mardi prochain, ouais. On commencera par les States.
Ouh. Les States.
Ouais, les meilleurs contributeurs.
Les meilleurs, oui.
Les Américains.
Ah bah vrai. Niveau conneries, ouais.
Ah bah là.
Il y a moyen
level,
de. Et bah merci d'être passé.
De rien.
Fatine, on se retrouve demain
pour
écouter ta fac.
Yes.
Et puis bonne journée à tous.